8h26 minutes en ce vendredi 7 février. Ça faisait quand même un petit bout qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles, en tout cas en personne, mm-hmm. avec nous en studio, et on tient énormément. De un à cette personne-là, et de deux à avoir de ses nouvelles ce qui se passe dans sa vie au quotidien. C'est quelqu'un que je considère maintenant comme une amie, qu'on a appris à connaître au fil et au cours de surtout la dernière année. Émilie Arsenault, vous l'avez déjà entendu à quelques reprises ici à Rage Against le matin. On a souvent parlé de sa triste histoire, entre autres sa situation, la tragédie et toute l'histoire de la réforme du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels, donc l'IVAC. La coupure du financement. Émilie, bon matin. Contente de te revoir, chère amie. Merci d'être avec nous ce matin.
Bien, bon matin à vous aussi. Moi aussi, je suis contente de revenir vous voir.
Émilie, du nouveau dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle aussi, un retour au travail, et ça, on en avait jasé énormément de ce moment fatidique-là, le moment où tu allais devoir retourner au travail. Comment ça se passe? Et question... peut-être niaiseuse, mais est-ce que tu te sentais prête à ce retour-là?
Bien, c'est un objectif que je m'avais fixé, là, de retourner au travail après les fêtes. Fait que j'ai travaillé vraiment dans ce sens-là, autant en réadaptation, autant qu'avec ma psychologue, qu'avec ma famille, à être prête à retourner au travail. Tu sais, si je vous le cacherai pas, là, c'est un métier que je rêve de faire depuis que je suis toute petite. Fait que c'est sûr que ça l'aide quand tu fais quelque chose que t'aimes. Ça se passe quand même bien. Vraiment, là, ça va bien. Puis j'aime vraiment ce que je fais. Puis souvent, on me dit, « Ah, oh, on dirait que tu as retrouvé ta petite étoile dans tes yeux. » Là, fait qu'ils sont comme contents pour moi. Mais c'est ça. C'est quelque chose, par exemple. Tu sais, je vais aussi à l'université en même temps.
Oui.
Mais j'ai besoin de m'occuper parce que c'est quand que je fais rien que là, ça va pas.
Tu es éducatrice en service de garde, en CPE, c'est bien ça?
Bien, en fait, là, je suis rendue professeure.
Professeur?
Ouais.
Oh, à l'école?
Oui.
Dans quelle classe?
En quatrième année.
En quatrième année? Ouais. Parfait.
Bravo.
Oui, excellent. Puis, la question que j'allais te poser, puis là, tu es libre à toi de répondre ou non, mais tu sais, est-ce que des fois, ça te fait penser justement à ta gang, à tes boys, ou tu es capable de passer à travers?
Bien, oui, je peux pas dire que non, parce que surtout que quatrième année, c'est là où Olivier serait censé être rendu.
OK.
Mais j'essaie vraiment de pas y penser le moins possible pendant que je suis au travail, de faire comme, tu sais, poker face, là, vraiment.
Ouais, ouais.
Tu sais, je souris, tout va bien, puis la vie est belle, mais tu sais, c'est sûr qu'un défi aussi que je m'avais donné, c'était de le dire au monde avec qui je travaille, là. Donc là, mes collègues sont tous au courant, puis...
Parfait.
Ouais.
Un petit rappel pour les gens là, ne seraient peut-être pas... Tu sais, je voulais pas aller en long en large avec le passé et l'histoire, mais juste remettre en contexte pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi ça, qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'auraient pas déjà entendu Émilie dans notre émission. Émilie, c'est la mère de cette tragédie-là, du meurtre tragique là, à Wendake, de ces deux enfants-là aux mains de leur père. Donc, je voulais juste remettre ça en contexte pour placer
Une chose est sûre, Émilie, moi, je te félicite parce que les étoiles dans les yeux, je les ai vues quand je suis allé chercher dans l'arbre.
J'ai vu quand tu es rentré en
studio. Ah ouais, j'ai vraiment trouvé ça cool. Bravo, franchement, d'être capable d'avoir cette candeur-là dans l'épreuve que tu vis. Je te félicite grandement. Tu m'impressionnes.
Bien, merci.
Émilie, je te laisse nous présenter parce que tu n'es pas seule ce matin à l'émission. Tu nous as amené de la belle visite. Je te laisse la présenter.
Oui, bien, j'ai amené avec moi... une personne qui préfère rester anonyme, on va l'appeler Heidi.
Heidi, OK.
Donc, dans le fond, IVAC, on le sait, la loi a changé. Maintenant, il y a des coupures. Après 3 ans, tu n'as plus le droit à tes indemnités. Moi, j'ai la chance d'avoir été prolongée d'un autre 3 ans, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ici, j'ai Heidi avec moi qui va être coupée le 6 mars.
Le 6 mars.
C'est ça. Donc, je voulais apporter quelqu'un qui va vivre pour vrai. C'est quoi être coupée? Très prochainement, là, puis c'est pas tout le monde qui veut venir en parler parce que la détresse, elle est là. Il y en a qui sont déjà coupés, puis ça va pas. Ils se sentent pas capables de venir en parler. Donc, j'ai Heidi avec nous qui se sent prête à venir dénoncer le fait qu'elle va être coupée le 6 mars.
Heidi, merci d'être là, de un. Et de deux, est-ce que tu voudrais nous raconter ton histoire?
Oui, ça me fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Dans le fond, mon nom, c'est Heidi. J'ai 23 ans et demi. Dans le fond, moi, j'ai un grand vécu avec de nombreuses séquelles. Dans le fond, j'ai été agressée sexuellement par mon premier beau-père et mon deuxième beau-père.
Okay.
Donc, ça a commencé à l'âge de 4 ans. Je me rappelle encore très bien de l'événement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus.
Okay.
J'ai été aussi battue par le deuxième et mon troisième beau-père ainsi que la conjointe de ma mère. Ma mère, qui, elle, m'a forcé à écouter Hors l'enfer martyr à l'âge de exactement dans le coin de 10 ans pour me montrer c'était quoi la souffrance parce que je dis maman, je suis tannée de me faire martyriser. Fait qu'elle m'a attaché une chaise, elle me forçait à écouter Hors l'enfer martyr puis j'avais du tape autour de la bouche pour voir c'était quoi Hors l'enfer martyr pour comparer ce que je vivais. Mais le plus dur dans tout ça, c'est vraiment été lorsque j'ai été abandonnée par la DPJ alors que j'avais fait mon propre signalement en novembre 2018 parce que j'ai dit à la DPJ que je voulais quitter ma demeure parce que je sentais que j'allais mourir, que ma vie approchait. J'ai frôlé la mort le 22 décembre 2018 parce que j'ai dit à ma belle-mère « touche-moi plus ». T'as pas la femme à me toucher, t'as pas la femme à me regarder me laver, t'as pas la femme à me filmer, t'es pas ma mère, c'est pas toi qui vas me donner des ordres, à me ramasser dans mon lit, à me garrocher à terre, puis elle s'est mise à m'étrangler, vraiment à mort, assez que le cœur me pompait dans la tête, je pensais qu'elle allait exploser. Je voyais du noir avec des blancs, puis j'allais donner mes derniers souffles quand que ma mère l'a regardé, sa conjointe, est arrivée, elle me dit « OK, ça suffit, lâche-la, j'ai pas le goût de finir en prison ». Quand je suis arrivée pour dénoncer à la DPJ, ben, ils me croyaient pas plus. Là, le plus beau cadeau, ça a été que ma mère a pu me faire. C'était celui de me dire de quitter la domicile parce qu'elle a appris que je voulais quitter. Ça a été le plus beau cadeau qu'elle m'a offert. Mais le plus dur dans tout ça, c'est que je vis avec d'énormes séquelles, des diagnostics qui ne sont pas fondés sur des tests, mais fondés selon ce qu'ils pensent, comme mon TPL, ou que ce soit pour les problèmes respiratoires, on pense que c'est de l'asthme. Pour ce qui est de mes chocs électriques, parce que j'ai deux types de chocs électriques, le premier, que je peux avoir un engourdissement avec des sentiments de fourmis dans les jambes et dans les bras, okay. Comme un éclair qui me passe... comme ça. Puis, mon amie qui me regarde avec mes écoutes présentement, j'ai eu un événement où elle était avec moi, j'avais un autre choc électrique, mais sans engourdissement à ce coup-là. Puis, je m'appelle encore, elle a eu la peur de sa vie. J'avais perdu connaissance, j'avais arrêté de respirer, j'étais plus consciente pendant une minute, puis j'étais rendue raide, j'étais au téléphone. Puis juste m'enlever le téléphone, ça y a tout pris. Puis moi, quand j'ai repris connaissance, je ne savais pas que j'avais perdu. Puis là, j'étais comme, comment ça que t'as mon téléphone? J'étais au téléphone en train de parler, puis je cherchais, je comprenais pas. Mais le plus dur à accepter, c'est vraiment le fait que j'avais manqué proche de mourir, la DPJ, la négligence. Je me bats aujourd'hui pour essayer d'avoir mon indemnité parce que ma demande avait été faite avant la nouvelle loi, mais acceptée après la nouvelle loi. J'essaie aujourd'hui de me battre avec la nouvelle loi pour essayer d'obtenir peut-être 2 ans supplémentaires pour enfin de retourner travailler, soit le retour au travail avec indemnité pour ceux qui ont de la difficulté, ou sinon... le retour ou aller aux études pour essayer d'obtenir 2 ans. Le plus dur, c'est qu'au quotidien, j'ai eu un accident de travail auquel j'ai dû subir 2 opérations à la jambe.
Aïe, 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 OK.
Je suis encore présentement en réadapte. Je suis une psychologue au moins une fois par semaine avec tout le lourd passé que j'ai par-dessus moi. Je vis avec la honte, la culpabilité, la tristesse, la colère, tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Puis derrière mon sourire, on peut... derrière mon sourire se cache une femme blessée, détruite, qui, malgré tout, essaie de rester forte.
Wow. Ton témoignage me crisse sur le cul. Là. Heidi, ça, je tiens à le dire, de un. De deux, parce que j'essaie de me faire une tête dans tout ça, dans le processus de prestation et d'indemnisation. Pour bien comprendre, Heidi, en ce moment, tu as des prestations, tu as une aide financière, oui. Mais ça va être coupé.
Je suis avec l'IVAC présentement. Je vais être coupée le 6 mars prochain, qui s'en vient vraiment très bientôt. Dans moins d'un mois, je vais le perdre. Présentement, on n'est pas dans la certitude que je vais pouvoir conserver mon indemnité. Donc, tu sais, il va peut-être falloir que je tombe sur l'aide sociale. Et c'est pas avec l'aide sociale que je vais être capable de survivre avec le faible revenu. Puis dans ma condition de ma santé, il n'y a aucun employeur qui est capable de me garder parce que je perds connaissance, je tombe ou j'ai des grosses douleurs abdominales. toute chose, les employeurs ne peuvent pas me garder. J'ai déjà essayé un employeur qui m'avait laissé ma chance, puis ça n'avait pas marché.
Heidi, premièrement, bravo pour ton courage. Félicitations d'être encore là. Je peux pas croire qu'une personne a vécu tout ce que tu as vécu. C'est vraiment abominable. Ça me touche au plus haut point. Là, tu as bien mentionné que tu avais fait ta demande avant l'arrivée de la loi, mais que la réponse a été après l'arrivée de la nouvelle loi. Est-ce que ça peut être quelque chose qui joue en ta faveur, le fait que ta demande était faite avant la nouvelle loi? Donc, normalement, tu devrais être dans des clauses dérogatoires comme Émilie?
Malheureusement, non. En fait, c'est que ma demande avait été faite. Elle était lancée en septembre, il y a 3 ans exactement, et acceptée en novembre. C'est pour ceux qui sont sur l'hiver et qui ne savent pas de ce que j'ai appris par la conseillère Henri Adab, c'est que les personnes de 3 ans qui vont être coupées peuvent demander d'une évaluation pour voir les séquelles permanentes qui sont, eux, avec ce que les médecins écrivent, les spécialistes, ils peuvent après ça évaluer si, oui ou non, tu peux avoir une demande de reprolongation.
Émilie, je me retourne vers toi parce que il me semble que l'exemple de Heidi, c'est l'exemple parfait des discussions qu'on a déjà eues par rapport à essayer de mettre une date de péremption ou une date butoir sur les émotions des victimes, sur le « est-ce que cette victime-là est prête à ce moment-là de retourner puis pas y aller cas pour cas? » Je me trompe pas, là.
Ben non, c'est complètement ça, là. C'est le meilleur exemple. Elle a essayé de retourner au travail. Mais tu sais, c'est pas qu'elle n'est pas une bonne employée, c'est elle a des problèmes de santé, elle ne peut pas travailler. Puis là, on lui dit, ben, tu te mettras sur l'aide sociale, mais elle n'a pas choisi sa vie. Elle n'a pas choisi d'être une victime. Fait que c'est vraiment, là, elle se fait revictimiser par le système complètement, là. C'est le meilleur exemple qu'on peut donner de quelqu'un qui, c'est pas parce qu'elle veut pas travailler, là.
Non, non, surtout que ça arrive dès l'âge de 4 ans, là, donc on s'entend qu'on choisit pas ça à 4
non.
ans. Là. De toute façon, on choisit pas à 40 non plus.
Non, ben, peu importe l'âge, on choisit pas.
Non,
mais pour
ça.
Donner un exemple, là, quand je parle, j'ai beaucoup de monde qui connaissent mon histoire, quelques-uns. Des parents, surtout, qui peuvent pas croire que des parents ont été capables de faire ça.
Mm-hmm.
Puis on va s'entendre aujourd'hui qu'en 3 ans, c'est impossible de voir tous les spécialistes, de finir les procès. Pour vous donner une idée, j'ai été en poursuite pour fraude contre ma propre mère ainsi que pour voie de fait qui rentre les agressions, etc., contre ma mère et sa conjointe. En fait, ça vient de commencer les procès, mais c'est des dates de remise. Puis le plus dur là-dedans, puis la raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui, c'est que je vais être honnête avec vous. À l'âge de 7 ans, j'ai essayé de m'enlever la vie parce que je vivais l'intimidation, la violence. J'étais forcée à fumer, à boire à l'âge de 7 ans. Puis, Dieu merci, j'ai pas resté accrochée.
Bravo.
Mais, écoute, j'ai essayé de m'enlever la vie en m'étranglant. Puis, un moment donné, j'ai arrêté. J'ai dit non. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais donner raison à mes agresseurs, à mes intimidateurs. J'ai dit non. J'ai dit, un jour, je vais trouver mon prince charmant qui va me délivrer. Je l'ai trouvé aujourd'hui, malgré qu'il m'a été enlevé il y a 2 ans et demi. Je l'adore. C'est dur, c'est un coup dur. Mais je reste forte malgré tout. Ils sont soutiens un l'autre. Puis, je me suis dit qu'un jour, j'allais le trouver. J'allais le trouver, je m'en sors. Puis, je me suis toujours accrochée sur ça. Puis, c'est la raison pour laquelle je suis encore en vie.
Heidi, wow. T'es tellement une femme forte. On va le mettre en majuscule.
Extraordinaire.
Je trouve que ce témoignage-là, cette discussion-là est importante. N'importe quand dans l'année, je vais souligner le fait qu'elle est encore en plus importante dans cette semaine de prévention de suicide, mm-hmm. avec le message que tu viens de livrer. À quel point le processus est complexe? Puis je me vire vers vous deux, là, je pose la question. Complexe d'essayer de prouver au système qu'on devrait continuer à avoir cette aide-là, cet encadrement-là, ces prestations-là. Je vois tous les papiers devant toi, Heidi. À quel point c'est complexe d'essayer de prouver qu'on est juste pas prête personnellement, tu sais, d'aller plus loin ou d'avancer tout de suite, qu'on a encore besoin d'aide.
Oui, puis surtout, en plus, le problème, c'est qu'avec mon âge, mon âge est un facteur, beaucoup. Écoutez, j'ai dû me battre avec mon médecin pour me faire enlever les médicaments. Je t'ai rendu avec pas loin de 15 médicaments différents. Les médicaments que les plus forts, je réussis à passer par-dessus. Puis ce qu'ils voulaient essayer, c'était de me remonter la dose, m'augmenter, mettre un autre médicament pour essayer que je réussisse à passer par-dessus. Puis je réussissais pas. Puis pour eux, ils pensent que la meilleure solution, c'est « OK, on va te donner des médicaments, puis retourne travailler. » Mais j'ai essayé. La dernière personne, ça a été une infirmière en santé mentale que j'avais avant qu'elle tombe en congé maternité. qui m'a obligé, ouais, retourne travailler. J'ai porté plusieurs CV. J'ai été porter plusieurs CV. Mm-hmm. Je veux savoir, il y a une résidence qui m'a offert ma chance en cuisine. Mais, tu sais, j'ai tombé, je me suis blessée, j'ai perdu une énorme quantité de sang, je perdais connaissance. J'ai même été. Puis ce qui m'a pas aidé, j'ai été offrir un repas qui était à moitié cuit parce que j'avais perdu juste connaissance cette journée-là 4 fois à la résidence. Puis ils pouvaient pas me garder dans une telle condition auquel j'étais pas présente, je perdais connaissance, j'avais des chocs électriques, je sacrais parce que les chocs électriques sont tellement épouvantables que je t'avais d'en partir une danse.
C'est pas que tu veux pas, c'est pas que t'essayes pas, tu sais.
J'essaye, je fais le possible, je suis suivie par un psychologue, mais tu sais, 17 ans, soit 14 ans de souvenirs atroces, ça fait pas s'enlever du jour au lendemain en 3 ans. Puis en 3 ans, aujourd'hui, avec le système de manque de personnel, c'est impossible de pouvoir voir tous les spécialistes. Puis c'est pas en se basant sur ce qu'on pense que tu peux diagnostiquer.
Absolument. Le système n'est pas juste mal fait, il est injuste.
Il est injuste totalement. Émilie Heidi, je vous promets que cette entrevue-là, on va l'envoyer directement au bureau du ministre. On va l'envoyer à tous les partis d'opposition aussi. Il faut absolument, Heidi, que ton histoire et ta voix soient entendues partout au Québec pour faire flancher le ministre Simon-Jolin Barrette, puis la CAQ dans cette loi-là et cette procédure-là complètement injuste pour des êtres humains qui ont sévi des sévices importants comme Heidi. J'en reviens pas, shake de ton histoire depuis tantôt. Émilie, Heidi, à part ce qu'on va faire là à la radio, parce que je considère qu'on a cette mission.
On s'est donné cette mission-là avec entre autres Émilie.
Exactement, on n'a pas le choix de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres recours qui sont possibles ou Heidi, tu fais juste recevoir ça en pleine face?
C'est vraiment dur au quotidien parce que, tu sais, c'est mon âge, c'est un défi au quotidien, mon âge. Mon passé est un défi, je me bats pour... tu sais, c'est de là, présentement, c'est... OK, il me reste moins d'un mois. Tu sais pas ce qui va arriver avec toi. Tu sais pas si tu vas avoir un revenu, si tu vas être accepté pour ta prolongation, trouver un emploi. C'est impossible. Puis c'est pas avec un 600, 700 $ de l'aide sociale que tu vas survivre.
Ben non.
Aujourd'hui, un loyer, c'est quoi le plus abordable? 1 000 $, 1 200 $? 254,5?
Mm-hmm. Non, ça n'a pas de sens.
Non, non, on va envoyer Heidi dans la pauvreté avec tout ce qu'elle a subi. Donc, à l'aide alimentaire, t'imagines tout ce qu'on va lui faire subir.
Je peux même pas forcer. Puis, je suis obligée, quand j'appelle un taxi, de dire « Je paye pas si vous m'avez pas un chauffeur qui peut m'aider à monter mes sacs parce que j'ai subi deux opérations, une petite pour m'enlever des fragments d'os parce que j'ai eu un accident de travail le jour de la fête à ma mère. Puis ma mère ne croyait pas parce que j'étais pas bleue, j'étais pas enflée. Ça a cassé mon os au lieu de le replacer. J'ai subi une deuxième opération en juillet dernier. Une grosse opération auquel ils ont dû me couper l'os, le haut et le bas de la rotule pour la réanimer. Je suis encore en réadapte aujourd'hui pour essayer de vivre. Je suis pas capable de rester trop longtemps assis ni trop longtemps debout. Pour monter les escaliers, c'est un défi. Au quotidien, pour moi, ça vient très difficile. Là.
Beaucoup de réactions via le 88-971-1021. Beaucoup d'amour qu'on t'envoie, Heidi, avec le témoignage que tu nous livres aujourd'hui. Jeff l'a bien dit, le message, on va le passer. On va continuer à faire ce qu'on a commencé à faire et qu'on s'est donné comme mission avec, entre autres, Émilie, il y a plus d'un an maintenant. Moi, je l'ai dit tantôt, ça me jette sur le cul. Tu as un passé tellement lourd. Cette incertitude-là est encore plus lourde quand toi, tu essaies d'avancer puis t'en sortir puis de t'améliorer comme personne puis améliorer ton sort puis ta situation. Ça me fait complètement capoter.
Puis on n'est pas tout seul non plus à vivre ça. Tu sais, je suis sur des groupes. Beaucoup de monde essaie de se battre, trouve que l'injustice est là. C'est pas pour rien qu'il y a le groupe de la page Facebook Les victimes abandonnées par les vagues. Beaucoup, beaucoup de monde déplore la nouvelle loi en
avec
plus.
Maître Sophie Mongeon puis Maître Bellemare, là, qui nous a vraiment beaucoup. Là.
Ouais.
On a eu la chance d'avoir une nouvelle avocate qui s'est rajoutée à notre cause aussi. Ça, c'est le super agréable. Là. On espère que la loi va changer prochainement. Là, pas pour nous, mais pour tout le monde, toutes les victimes qui vivent des affaires. Ce qu'on voudrait, honnêtement, le message que j'aimerais que le gouvernement comprenne, c'est qu'ils se mettent à notre place, ils se mettent juste à notre place 2 minutes sur la souffrance qu'on vit au quotidien, les défis que ça nous apporte, que, tu sais, c'est pas 3 ans qui va nous aider à surmonter des telles douleurs, des traumatismes, une souffrance, des pertes de famille ou de membres de famille, leurs enfants, ou juste toi-même, ou la violence conjugale, c'est impossible de survivre en 3 ans.
Wow! Ouf! Ça continue de rentrer. Toute l'amour, je veux juste dire, il y a beaucoup d'amour qui rentre d'auditeurs, auditrices en ce moment. 88-971-1021. Émilie, toujours un plaisir quand tu passes nous voir. Tu sais, la porte est toujours ouverte pour toi. Oui. Tu nous fais signe, tu nous tiens au courant de ce qui se passe. Merci d'avoir invité Heidi avec toi ce matin. Ton témoignage est incroyable. Tu es une femme tellement forte et je suis content d'avoir fait ta connaissance aujourd'hui. Jeff l'a bien dit.
Oui.
Ce qui vient de se passer à Rage Against le matin, bon, ça a touché plein de gens en direct. On va l'envoyer.
Ça restera pas là.
On va continuer à pousser.
De toute manière, j'avais prévu, comme vous voyez, j'ai écrit 3 pages, en fait. Je l'ai pas lu, mais ça a pas mal fait un résumé parce que sinon, je suis ici.
Non.
Mais j'avais prévu probablement l'envoyer à plusieurs journalistes là, pour que ça soit publié. Là. Parce que honnêtement, c'est pas juste moi, mais c'est des milliers de personnes comme Émilie qui est avec moi aujourd'hui, que autant les personnes qui peuvent nous écouter, qui sont sur des groupes des victimes d'actes criminels, qui sont sur l'IVAC ou qui sont en attente, qui peuvent se faire refuser à plusieurs reprises. J'en ai un, j'ai vu que ça faisait juste 5 fois qu'il s'avait fait refuser l'IVAC dernièrement.
Wow. Émilie, Heidi.
Ouais.
Merci de passer nous voir ce matin.
Émilie, félicitations de prendre ce rôle de leadership-là avec les gens, justement, comme Heidi, qui vont se faire couper leurs prestations. Dans ton cas, ce n'est pas pour immédiatement, mais de servir, justement, de leader comme ça, ce groupe-là. Je te félicite. Je t'ai dit que tu avais des étoiles dans les yeux. T'en as encore plus. Bravo.
Oui, ben, je suis contente de ton témoignage, vraiment, là, parce que... C'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'être prolongée 3 ans, puis j'ai la chance d'être accompagnée. Moi, j'ai une famille autour de moi qui me supporte, puis qui sont là, qui sont aimants, puis qui m'aident. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis ça fait une énorme différence. Là.
8h48. Merci à vous deux.
Merci.
Courte pause. On se retrouve tout de suite après. Rage.